Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Salut et bienvenue sur RTL, c'est la première heure de la semaine. On se connaît pas bien, je crois même que c'est la première fois que je te rends. Non, t'es peut-être venue dans le grand studio. C'est Elena Noguera qui est avec nous. Bonjour, ça va? On va beaucoup parler de ce roman, mais pas tout de suite. Il s'appelle Ciao Amore. C'est ton troisième roman. Il est formidable. Tu m'as baladé pendant tout le roman. C'est une histoire d'amour, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Combien de temps ça prend pour écrire un roman, Elena Noguera?
Alors, combien de temps ça prend? Si je le colle jour après jour, ça doit prendre, à moi en tout cas, 4 mois, je dirais. Sauf que je le fais sur 1 an.
C'est quoi le déclic qui fait écrire une histoire, notamment celle-là? C'est une histoire dont on va beaucoup parler, à mon avis, cet été. Ça va être un bouquin qui va marcher, c'est sûr. Ça sort chez Flammarion.
Fées t'entendent.
Mais je le crois. J'arrête pas d'en parler à tout le monde depuis hier. Hier matin, je me suis installé à mon bureau et j'ai dit, bon, il faut que je le lise. Alors, des fois, je lis en diagonale, des fois, je lis vite. Puis, des fois, je me fais avoir et je me suis vraiment fait avoir par ce livre qui est formidable, qui est bien écrit. C'est important de le dire.
Et puis,
surtout, qui nous emmène dans une histoire dingue. C'est quoi le truc de départ? Ça arrive pour une chanson, je suppose. Ça arrive pour un article, pour moi. Ça arrive. Tu sais, le premier mot ou l'idée de départ, c'est quoi, Elena?
Mais c'est son prénom. C'est le prénom Cléophée.
Ouais.
Qui est le prénom de mon héroïne.
Ouais.
J'avais lu ça, mais il y a longtemps, dans le L. Il y avait une espèce de hit girl qui avait une petite fille, elle venait de l'appeler Cléophée. Et à l'époque, j'ai noté ce nom dans un cahier en me disant, tiens, c'est le nom d'une héroïne. Et pendant une dizaine d'années, j'ai trimballé ce prénom, elle a eu plein de débuts, mais j'arrivais pas à lui trouver son histoire. J'ai mis longtemps, parce que j'avais écrit 2 précédents romans qui étaient beaucoup plus opaques, beaucoup plus difficiles à lire.
C'est un peu dur avec eux. Pour te dire la vérité, je les ai pas trouvés. Du coup, tu m'as donné envie de chercher, mais je les ai pas trouvés. Tu les conseilles pas en plus?
Non, parce que... en tout cas, pas à ceux qui ont aimé celui-là. Parce que celui-là, justement, j'ai mis 10 ans à trouver cette forme qui est... facile à lire, agréable, rapide, ce format j'ai tenté de faire un format d'1h30 comme un film, en fait. J'ai tenté de faire en sorte que le lecteur soit pris comme s'il regarde un film d'aventure.
Il y a aussi beaucoup de musique, c'est rigolo, il y a une bande-son dans ce livre. On y reviendra tout à l'heure. J'ai décidé qu'on en parlait en deuxième position. Je voudrais qu'on parle d'abord de ton rapport à la promo, Elena Noguera. C'est un passage obligé, c'est un moment marrant, c'est quelque chose pour quoi tu te fais violence.
Un peu, oui. C'est difficile parce que... parce qu'en fait, tant qu'il est question de parler du livre, là, comme la question d'avant, j'y arrive. Et après, tant que ça devient plus parler de soi... C'est difficile parce que c'est plaisant sur le moment, évidemment, on est tous, je suis un être humain je suis une fille comme toutes les autres. Et donc on est plutôt...
Pas tout à fait, non, mais c'est une autre histoire.
Merci. On est flatté, on a envie de parler de soi. Et en fait, après on se rend compte que, parce que là on est en tête à tête, tu es toi et moi, y a cette personne derrière toi, comment vous appelez?
Ariane,
voilà.
Qui est la productrice de mon émission depuis...
Voilà. Il y a Ariane, donc nous sommes 3 dans cette pièce.
Il manque juste Bernard Meneguzzi qui réalisait normalement, mais qui est parti et qui t'aime.
Oui.
Elena était animatrice sur RTL,
oui,
on en parlera tout à l'heure.
C'est vrai. Et donc on est comme ça dans un petit vase clos, je parle assez facilement. Et après on se rend compte que ce qu'on dit est écouté, jugé, que ça a des conséquences.
Il y a de l'impudeur.
Voilà, que c'est impudique, c'est le mot que j'allais dire. Et que c'est assez impudique, on parle de soi, on engage d'autres gens souvent, on raconte sa famille, on raconte son enfance, on engage des choses qui sont un peu assez difficiles.
On va écouter de la musique, alors un peu comme la bande-son de ton livre, je sais pas, d'ailleurs hier ton film, t'as vu, mais il y a aussi des petits films qui ont été faits, il y a un site internet qui s'appelle Ciao Amore, où vous pouvez voir des illustrations avec justement ce fameux couple. On va commencer par quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as envie d'écouter? Est-ce que t'as la liste sous les yeux, Elena?
Oui, j'ai la liste sous les yeux.
Tu veux qu'on commence par quoi?
Je m'ai mis Asaf Avidan and the Mojos, il a une voix incroyable.
Ouais, pourquoi t'as choisi ça justement, pour la voix?
Sa voix, oui, sa voix est tellement surprenante, ses voix singulières, comme Camélia Jordana ici... Ces voix qu'on reconnaît directement et qui ont une personnalité mais directe, elles sont inconfondables. One day, baby.
couldn't show.
Vidan and Mojos, c'est choisi par Elena Noguera, qui est notre invitée sur RTL pour la première heure de la semaine. Ciao Amore, c'est d'abord une chanson dramatique, avant d'être un roman. C'est une chanson qui a été chantée par Dalida, mais écrite par celui qui était son amoureux. Il la présente au festival en Italie, San Remo.
À San Remo.
Ouais. Et puis il chante mal et il se suicide. Et elle le trouve mort.
Oui, c'est horrible.
Et c'est pour ça que tu as choisi. C'est pour cette chanson-là que tu as choisi le titre du roman ?
Non, en fait, la chanson était dans le roman parce que moi, ma petite héroïne, tout au long de son escapade, elle fredonne beaucoup de chansons.
Ouais.
Dont Ciao Amore, puisqu'à un moment, elle est en Italie et elle chante des chansons comme on fait tous dans la vie, des chansons que j'appelle de circonstance, c'est-à-dire un mot t'éveille une chanson. Et donc, elle chante Ciao Amore. Et c'est mon éditeur. On cherchait un titre. Moi, au départ, je voulais un truc plus compliqué. Je voulais un oxymore. Donc, un oxymore, pour ceux qui ne savent pas, c'est deux mots à coller qui sont antinomiques, a priori. Donc, un soleil noir. Mmh. Voilà. Et comme je trouve que mon personnage est un oxymore, je voulais un titre un peu plus complexe. Et c'est lui qui m'a dit, mais non, mais Ciao Amore, c'est très bien. Et puis, comme t'aimes Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, voilà. C'était un petit hommage aussi à Dalida, à Sagan, à l'amour, au drame.
C'est l'histoire de Cléophée. Alors ça commence, elle quitte son amour d'enfance, elle l'a rencontré à 20 ans, ouais. C'est une grande et belle histoire d'amour, j'allais dire, sur les bancs de la fac. Elle est journaliste dans un journal People, voilà, elle s'emmerde un peu, elle fait beaucoup la fête, elle sort beaucoup, oui. Elle se défonce pas mal d'ailleurs, ouais. pendant tout le roman. Et puis voilà, elle quitte son mec, et puis les années passent, et puis un jour elle se réveille, elle décide de quitter son boulot, et elle décide qu'elle va aimer le premier type qu'elle va rencontrer dans la rue, et que si lui ne l'aime pas, elle le tuera.
Oui. C'est un défi, mais comme un enfant, elle a 28 ans, c'est une jeune fille un peu...
Elle est belle.
Un peu effrontée, elle est très belle. J'ai voulu en faire une héroïne comme dans les films d'antan, c'est-à-dire elle est belle, elle a des jolies robes, elle a une belle voiture. Une vieille voiture, décapotable. Et puis elle a la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse, et quand elle se dit cette chose-là, c'est un peu comme une enfant qui joue à la marelle et qui se dit si je marche sur la ligne, c'est qu'il m'aime pas, tous ces jeux qu'on se fait, ou si le feu passe au vert, c'est qu'il m'aime. Et donc elle se dit ça, mais je pense qu'au départ c'est pas très sérieux, et en fait si, elle va le prendre au sérieux, et effectivement un jeune homme,
Ferdinand
arrive, lui demande du feu, elle va le suivre, elle va l'enlever en quelque sorte, elle va l'emmener.
Il y a deux, trois scènes qui sont incroyables. Je dis ça pour vous donner, vous qui êtes en train de nous écouter, envie de lire ce livre. Cette scène au jardin des Tuileries,
oui.
Où il parle tout seul, j'ai adoré. Ensuite, la scène de l'ascenseur quand elle le raccompagne chez lui, qui est incroyablement érotique.
Oui.
D'ailleurs, j'espérais qu'il y en ait un peu plus après.
Ah, c'est une frustration.
Malheur, enfin, elle est là.
Oui, non,
mais
il y a
une forme de tension amoureuse. On n'est pas très loin de la folie parfois, donc elle va finir par l'enlever. Alors, c'est pas tout à fait le terme, mais ils vont partir d'abord à Nice, puis après en Italie, puis sur une île. Et puis je ne vais pas raconter la suite, parce qu'il faut le lire.
Oui, parce que c'est un petit thriller en même temps. Il y a du suspense, il y a une intrigue. Voilà. Il y a une énigme.
Comment elle t'arrive, l'énigme, et à quel moment t'as la fin, Elena ?
Alors, la fin, elle n'est pas tout de suite... D'abord, je décide qu'elle va faire ça, qu'elle se dit le premier qui m'interpelle, je l'aimerais, il faut qu'il m'aime, sinon je le tue. Et donc, je l'ai fait déambuler. Et effectivement, à un moment, arrive dans l'écriture un moment suspendu où tu les abandonnes. Et ça m'amuse beaucoup quand je laisse les héros comme ça, parce que je les vois figés à une terrasse d'un café et ils ne bougent plus, ils ne savent plus ce qu'ils font, et moi non plus. Et je rigole parce que ça peut me prendre 2-3 jours, et je dis à mes copains, bah là, ils sont comme ça, ils sont à la terrasse d'un café, ils bougent plus, je sais pas où ils vont, quel chemin prendre. Et puis finalement ça se décante, et je me dis, ah si, c'est ça la fin. Et puis c'est irrévocable. Au moment où ça vient, je sais que je vais en faire ça.
Il y a une phrase que j'adore dans ce roman sur Cléophée. Cléophée n'avait pas une once de cynisme, et cela pouvait parfois faire paraître plus bête qu'elle n'était. Je trouve que c'est tellement vrai, tellement juste. Et je me suis demandé si tu t'étais pas un peu autodécrite.
Ouais, c'est marrant. Si, en fait, ça, c'est un copain qui me disait ça. Qui me disait, en fait, tu es la personne la plus dénuée de cynisme que je connaisse.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça qu'on, parfois, on a l'impression que tu es un peu idiote. Donc, ça a résonné en moi. Je dis, ah oui, je peux comprendre qu'effectivement, quand on ne me connaît pas ou qu'on ne prend pas la peine de me connaître, comme je ne déploie pas non plus énormément. De besoin de prouver quoi que ce soit, bah on peut penser que oui, je suis une ravissante idiote. Ça me gêne
oui,
pas.
Et puis tu as aussi voilà, le truc de très jolie fille, c'est-à-dire tu parles dans un entretien que j'ai lu en préparant cette interview, d'être l'objet du désir très tôt, parce que tu as commencé comme mannequin, et donc en fait tout ça, j'ai l'impression que ça efface un peu le reste parfois. C'est...
Oui, oui. Bah, y a un a priori, c'est-à-dire que souvent... la beauté, c'est bizarre de parler comme ça de soi, mais disons que je suis assimilée du côté de la beauté.
Très jolie femme, et c'est à moi de le dire, mais et puis d'abord tu le sais. Non, mais ne serait-ce que parce que tu as été une professionnelle mannequin.
Oui, j'étais mannequin.
Voilà.
Et c'est vrai que la beauté, c'est déjà suffisamment impressionnant en soi que pour qu'on te donne d'autres qualités. Peut-être qu'on n'a pas envie non plus que les fées se soient penchées sur ton berceau avec trop de trucs. Donc, ben joli, c'est déjà pas mal. Donc, viens pas non plus revendiquer d'autres choses. Et puis toi, en tout cas, je peux pas faire des généralités. Donc moi, j'avais aussi sans doute cette discrétion et cette humilité de pas vouloir en faire plus non plus. Donc j'ai jamais non plus déployé la grand voile pour démontrer que j'avais autre chose. Non, enfin, je sais pas si on me comprend.
Si justement, mais moi j'essaye de comprendre le paradoxe entre le fait que comme t'es mannequin, t'es obligé de prendre soin de toi.
Oui.
Et à la fois, je me demande si un peu comme Françoise Sagan, t'as pas un peu envie de casser la gueule à cette beauté.
Si, mais ça c'est dans la jeunesse, parce que quand elle se casse la gueule toute seule, je peux te dire que t'as envie de la rattraper très vite, hein, parce que moi j'ai 47 ans et je vois bien qu'elle est en train de se casser la gueule et je me dis oh putain, mais en fait je l'aimais bien. mais pendant, évidemment, elle est là, tu y es habitué, et puis tu luttes aussi contre, parce que les autres te la renvoient tout le temps à la gueule, donc tu trouves que ça sera super quand elle sera démolie. Sauf que quand la réalité arrive et qu'elle se démolit de fait, tu dis ah oui, c'était donc ça, ce pouvoir-là, c'était donc ça, cette beauté du diable, c'était donc ça. Mais c'est fantastique aussi de s'y confronter après. C'est-à-dire que le voyage que je suis en train de faire maintenant m'intéresse tout autant qu'à 20 ans, penser que je serais heureuse d'être démolie à 50.
C'est-à-dire pourquoi je pense à s'ignorer quand tu dis ça?
Bah parce qu'elle a vécu ça, elle aussi. Elle l'a accéléré.
C'est Signoret qui m'a travaillé. Oui, elle l'a accéléré avec l'alcool.
Elle l'a accéléré, elle l'a pris. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai lu, ce qui est fascinant en ce moment, c'est que quand montant à l'histoire avec Marilyn et qu'il descend de l'avion et que la presse française s'est déjà emparée de cette aventure.
La phrase qu'elle a ?
Elle lui a dit t'as voulu la belle, t'auras la moche. Et elle était belle. Elle était très 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 belle, Simone Signoret.
Ah oui.
Et elle s'est laissée envahir par l'alcool et elle lui a imposé ça. C'est-à-dire,
phrase. D'ailleurs, il y a un spectacle qui se joue en ce moment au théâtre.
Oui, Christo.
Ouais, vachement bien. Ouais, je suis allé le voir la semaine dernière, vachement bien. Et il y a cette phrase géniale qui dit je comprends que Marilyn ait voulu mon mari, c'est parce qu'elle a bon goût.
Oui, bien sûr.
Tu vois.
Bien sûr.
T'as voulu la belle, t'as eu la moche.
Mais ouais. T'as voulu la belle, t'auras la moche.
Ah, vache.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on ça ouais. Mais reste comme t'es quand même, Elena. Le livre s'appelle Ciao à moi.
Hein.
Non, mais non, arrête.
Non, à l'intérieur, la beauté est de l'intérieur.
Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Franz Ferdinand.
Très bien, ça c'est du rock maintenant. C'est parti.
Voilà.
C'est sur RTL. C'est Elena Noguera qui programme jusqu'à 1h du matin. Ferdinand, choisi par Elena Noguera, Take Me Out. Pourquoi on a écouté ce groupe d'ailleurs, Elena?
Mais parce que j'aime beaucoup cette énergie des Franz Ferdinand. J'ai du mal avec le rock plus ardu. Et pour moi, ils ont un côté pop. Alors que c'est quand même, pour moi, c'est mon maximum rock. mais j'aime bien.
C'est quoi ton fond de culture en musique, Elena? Alors, dans ton roman, Cléophée, elle a une collection de vinyles vintage assez intéressante. C'est la tienne, ça?
Assez, ouais. Je me suis forcée à mettre des choses un peu plus modernes parce que j'ai tendance à écouter beaucoup de jazz. La variété française d'antan aussi, j'aime bien. Sheila, France Gall, Julien Clerc, Alain Chamfort. Enfin, eux, ils sont encore là, mais je veux dire Françoise Hardy, mais tout ce qui est 60s, yéyé, Diana Ross. Je suis vraiment nostalgique d'une époque que j'ai pas vécue, qui est celle de mes parents, finalement. Ouais. Et je m'y sens vraiment bien.
C'est quoi, Elena, ton éveil à la culture, à la maison? Alors, il est question du cliquetis de la machine à écrire de ton père qui travaille, évidemment ta sœur, Lio, mais c'est quoi ton éveil à toi de petite fille? À quel moment, comment et pourquoi ça arrive?
Ça arrive parce que c'est obligé, c'est dans le régime des parents, c'est-à-dire que ce sont des intellectuels plutôt gauchistes, à l'époque un peu hippies, et donc c'est tout de suite la culture dès l'enfance. Ils vous parlent, je sais pas, de philosophes, de films. Mon père me faisait voir des films de Bergman et de Pasolini à 8 ou 9 ans.
Donc, tu pipais rien?
Ah ben non, c'était horrible même. je détestais. Je disais, non, pas ça. Alors Godard, ça le faisait. Et mon amour pour Godard vient peut-être de ce moment-là parce que c'était, d'un seul coup, il me montre Pierrot le Fou et c'est une fenêtre de fraîcheur. Et là, je me dis, oui, ça, je comprends. Demi, oui, je comprends. Mais Buñuel, La Voie lactée, jamais, pas du tout. Et donc il y avait cette envie là de faire de nous des petites érudites, et donc on n'a rien trouvé de plus punk que de faire de la variété et d'aimer Sheila et d'aimer les filles avec des shorts à paillettes roses parce que c'était ultra punk d'aimer ça à la maison.
C'était quoi la maison? Alors, famille d'origine portugaise.
Oui.
Qui fuit le Portugal pour venir en Belgique. Toi, t'es née en Belgique.
Moi, je suis née en Belgique, donc je suis la seule belge de la famille.
Lio, elle est née au Portugal.
Elle est née au Portugal.
D'autres frères et sœurs?
Il y a un frère qui est né au Portugal.
Ouais.
Et après, moi, je nais en Belgique. Et puis, toutes les autres, tous ceux que nous avons mis au monde sont nés en France. Ils sont tous français. Ouais. Donc, en fait, il y a les Belges, les Portugais et les Français.
Et au milieu,
il y a la Belge. C'est moi. Je suis la seule.
Et t'es quoi? T'as la nationalité belge?
Oui, j'ai pris la nationalité belge.
Pourquoi?
Au grand dam de mes parents. Parce que je trouvais ça très marrant, parce que j'ai toujours eu un petit peu le sens de la provoque. Donc tout le monde était portugais et de devenir belge, c'était une petite provoque aussi envers eux. Mais surtout, c'est que je me sentais belge. J'étais née en Belgique, mes copines étaient belges, l'école était belge, ma langue est belge, mon accent était belge. Hein. Tous les odeurs, les rues, tout quoi. Donc j'ai décidé d'être belge. À 18 ans, tu choisis ta nationalité et donc j'ai pris celle du sol.
Je comprends. Jusqu'à quel âge tu as vécu en Belgique?
Jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis devenue mannequin et je suis devenue citoyenne du monde.
Ouais. Là, les parents, tu dis, ils font quoi?
Alors, mon père était musicologue et ma maman travaillait dans le même, au même endroit. Et elle s'occupait de l'administratif. Elle était plutôt secrétaire de direction.
Et toi, t'es la petite dernière?
Et moi, je suis la petite. Ouais, je suis le bébé.
La petite comment?
La petite comment quoi?
La petite marrante, la petite qui fait des conneries, la petite sage, la petite...
Non, marrante. Marrante, sage, oui, mais marrante. Sage parce que je pense que j'ai toujours fait attention à ne pas heurter les autres, mais j'étais comique, quoi. Je voulais être Groucho Marx. C'est-à-dire qu'au lieu de me déguiser en princesse, je me déguisais en Groucho Marx. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un comique des années,
avec
je crois, 30.
Moustache.
Avec une très grosse moustache. Donc ouais. je mouillais, je brûlais un bouchon de vin et je me dessinais une grosse moustache autour de la bouche. Donc, et je me mettais le gros bouchon dans ma bouche parce qu'il fumait des gros cigares. Et je mettais un bonnet de nuit. Blanc comme ça, et je mettais une grande chemise de nuit parce qu'il y a des scènes où il est comme ça et je venais danser pendant les dîners des parents et je faisais Groucho Marx, ce qui était marrant parce que souvent les filles elles font des spectacles de danse et elles s'habillent en Claudette et elles dansent les Claudettes. Aujourd'hui elles dansent Beyoncé, j'imagine, les gamines, mais moi non, je faisais le clown.
Et l'école, ça se passe comment?
J'ai adoré l'école, j'adorais mes professeurs. D'ailleurs, j'ai retrouvé une de mes institutrices, Madame Franchimont, et je lui ai dit, je lui ai déclaré mon amour et je lui ai dit que j'étais constituée aussi de ses cours et de son énergie, qu'elle avait vraiment réussi à transmettre quelque chose. Et j'ai vraiment une passion pour ce métier et j'aimais bien. J'étais plutôt sage, un peu insolente parce que j'avais envie de dire des trucs, mais. De manière assez respectueuse quand même.
C'est quoi, c'est une famille d'intello.
Oui.
C'est quoi, c'est de la bourgeoisie, c'est de la classe moyenne, ça vit comment? Pas, je suis curieux, pardon,
oui,
mais
oui.
Je suis gourmand.
C'est rigolo. En fait, c'est donc du côté de mon père, effectivement, c'est une bourgeoisie. Ils sont juges, ils vivent au Portugal assez aisément avec du personnel de maison. Et du côté de ma mère, c'est un autodidacte, enfin pas autodidacte, il a fait des études. Mon grand-père, il était médecin, il a fait une clinique, mais c'est quand même un bourgeois, mais de province, et qui a fait son hôpital, sa clinique, et qui était maire du village, maire communiste après la Révolution. Donc très fantaisiste du côté de ma maman et une bourgeoisie plus bohème. Et puis du côté de mon père, une bourgeoisie plus rigide et je dirais même plus de droite. Donc c'est le clash des deux qui donne ça, qui fait que mon père est un fugitif, refuse d'aller faire la guerre en Angola. Et donc ce sont des réfugiés politiques, puisqu'à l'époque c'est la dictature au Portugal. Et donc quand on arrive en Belgique, ça devient des sans-papiers d'abord.
C'est pas vrai.
Ben si, des réfugiés. Donc,
putain, l'histoire.
Des sans-papiers.
Ouais.
Et puis des gens qui finalement deviennent. Ma mère est devenue femme de ménage et mon père serveur dans un restaurant avant de s'intégrer de nouveau dans une société dans laquelle ils ont trouvé des postes après, dans lesquels ils se sont épanouis parce qu'ils avaient 24 et 25 ans quand ils sont arrivés en Belgique. Mais quand je vois des réfugiés, je me dis, il faut leur tendre la main, puisque mes parents l'ont été. Et puis si c'était moi qui l'étais, s'il y avait une catastrophe ici et que je me retrouvais, je ne sais où, en Croatie, je serais contente que quelqu'un me tende la main.
On écoute de la musique, Elena, qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Niagara.
D'accord. Alors, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup l'album Religion aussi, qui est un album mais gravement rock'n'roll. Alors là, c'est rock'n'roll, dis donc.
Oui, mais ça reste pop quand même. Elle est pop. Elle est. C'est pas Joan Baez.
Non.
Voilà.
Non. Allez, on y va.
Même s'il y a de ça.
On y va, c'est J'ai vu, c'est Niagara. C'est choisi par Elena Noguera sur RTL.
Les combats collés devant l'écran, à la fois zoé et tôt.
Muriel Moreno, c'était Niagara, l'album Religion, j'ai vu, choisi par Elena Noguera, qui nous offre le roman du printemps, peut-être de l'été, je te le souhaite, en tout cas ça va marcher, c'est super bien, c'est chez Flammarion, ça s'appelle Ciao Amore, et c'est marrant, en cas de coup, il y a marqué, quand elle n'écrit pas des chansons, Elena Noguera chante et joue la comédie, j'ai envie de dire, entre autres, parce que alors t'es une incroyable touche à tout, on va en parler maintenant si tu le veux bien, je commence par un truc qui va peut-être te rappeler des souvenirs, en tout cas tu vas nous en rappeler à nous. Serge Gainsbourg réalise le clip vidéo d'Indochine, Tes yeux noirs, et dedans, Elena Noguera, t'étais une bombe à l'époque.
Ouais, j'avais, je crois, 15 ans.
Ouais.
J'avais 15 ans, mais c'était super, c'était vraiment un rêve de gamine, parce que j'étais fan d'Indochine, et la chose s'est passée comme dans les biographies, comme dans les romans. C'est-à-dire que ma sœur, donc Lio, qui était déjà célèbre, les connaissait. Et ils passaient en concert à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, qui est une grande salle de concert. Et j'ai demandé des places à ma sœur, elle m'en a trouvé, et elle m'a dit, va derrière, va dans les coulisses, dis que tu es ma sœur, et tu les rencontreras. Donc j'avais le pass, je suis allée dans les coulisses, et j'ai fait la queue.
T'es lycéenne, hein, on est d'accord.
Ouais, j'ai 14 ans, ouais, 14-15 ans. Et je fais la queue avec toutes les groupies et j'attends pour qu'ils me signent un autographe. Et quand j'arrive devant eux, je ne peux pas dire cette phrase qui déjà était tabou pour moi à l'époque. Je suis la sœur de Lio. C'est-à-dire que c'est impossible. Toute ma vie, je ne peux pas dire cette phrase. Donc, je suis devant eux, ils me signent mon papier sur un billet de 50 francs. Belge, il me signe et je m'en vais. Et ma copine a dit, mais t'es super con, quoi. Il t'aurait dit la phrase magique, il nous aurait un peu mieux regardé. J'ai dit, non, mais je peux pas. Et on les suit, comme un peu toutes les groupies, là. Et on les suit, ils s'en vont dans la sortie des artistes, ils vont sur le parking, ils rentrent dans une limousine et ils s'en vont. Et on est un peu penaud, là, sur le bord du parking. Et la voiture s'arrête avant les grilles du parking. Nicolas sort de la voiture, court vers nous. Et il me dit, mais tu sais, t'es vachement mignonne, toi, tu ressembles à Yuko Tsuno. Yuko Tsuno, qui était une bande dessinée à l'époque d'une petite japonaise qui avait un petit carré comme ça, comme j'avais. Je dis, oui, je sais, on me l'a déjà dit. Ils me disent, mais tu sais, la semaine prochaine, on va tourner un clip avec Serge Gainsbourg et on cherchait notre petit personnage. Et en fait, on était tous dans la voiture et on s'est dit, mais t'as vu la fille, c'est elle, est-ce que tu veux le faire? Je dis, ben oui, c'est génial. Et voilà, et donc j'ai été prise dans ce clip sans avoir dit, je suis la sœur de Lio, que je ne voulais pas dire.
Et à quel moment tu leur as dit?
En fait, ils se sont rendus compte parce qu'après, donc la semaine d'après, je suis allée à la production où ils m'ont donné rendez-vous pour les essayages et la rencontre avec Gainsbourg, etc. Et là, les producteurs, puisqu'on était à Bruxelles, me connaissaient avec ma sœur et leur ont dit, mais c'est la sœur de Lio. Il faut, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? J'ai dit, mais parce que je peux pas dire ça. Je ne veux pas être la sœur de Lio. Je ne peux pas dire ce mot-là. Ça m'énerve. Et voilà. Et je me suis retrouvée dans ce clip. Et en plus, ça me mettait en joie d'y être sans l'avoir dit ça.
Bah ouais.
Voilà.
Bah ouais. Et Gainsbourg?
Et Gainsbourg, très sympa.
Tu l'as fréquenté, en fait?
Pas du tout. J'ai tourné après sa dernière pub à 18 ans. Là, j'ai 15 ans quand on tourne ce clip. Et puis, 3 ans après, quand j'ai 18 ans, il me prend pour faire une pub qui s'appelait, c'était du sucre de régime, Free, enfin, je ne sais plus la marque du sucre. Et donc, il m'a refilmé à ce moment-là. Et ça ne s'est pas très bien passé la deuxième fois. On s'est fâché.
Il avait switché.
Et ouais, on s'est fâché. Puis moi, j'étais un peu plus rebelle. Je me laissais moins faire, mais à 15 ans, j'étais un bonbon, donc je le trouvais marrant, puis c'était Serge Gainsbourg, et puis t'as 15 ans, t'es là-dedans, tu comprends rien, même si les gens sont un peu cons, tu le sens pas, enfin, tu vois un monsieur d'un certain âge, c'est comme un vieux savant fou, donc il est un peu vulgaire avec toi, mais toi tu t'en fous, puisque de toute façon, il sort d'une bande dessinée, il n'existe pas, c'est Serge Gainsbourg. C'est à 18 ans que tu commences à réagir et à dire, bah, ça va, tu parles pas comme ça. Enfin, je parle encore, je dis toujours, je peux pas généraliser. Moi, j'étais comme ça.
T'as dit un truc sur lequel je suis obligé de revenir. T'as dit au moins 4 fois, je ne peux pas dire la phrase, je suis la sœur de Lio. T'as quel âge quand arrive Banana Split?
J'ai 10 ans.
Oh, ah ouais.
J'ai 10 ans et ça devient tout
ça,
de suite.
Ça devient gênant. Enfin, c'est pas gênant, ça devient quoi?
Non, au début, on comprend pas. C'est un peu comme dans la vie.
C'est rigolo quand même au
départ. C'est-à-dire, tu comprends à la fin. Ben oui, C'est marrant, elle va faire un disque, elle ramène un disque avec une pochette, elle devient chanteuse. Tout ça, c'est comique, c'est marrant. Moi, j'emmène le disque à l'école, je dis aux copines, ma sœur, elle a fait un disque, et puis et tout est simple. Et puis, il y a du succès, et c'est joyeux, et on ne se rend pas compte de ce que ça va transformer. Et en fait, ça transforme les choses. Donc, les gens, ils vous aiment bien parce que tu es la sœur de Lio, et que ça fait bien, et que ça crée une attraction débile. Ou bien, les gens t'aiment pas pour la même raison, parce que ça crée une répulsion.
Mais même à Bruxelles, t'es pas plus protégé que tu l'aurais été à Paris.
Ben non, parce que c'est le cœur, quoi. Ça commence en Belgique. Ça commence en Belgique, puis ça vend 10 millions de singles en Europe.
C'est fou, ouais.
Donc c'est de la folie totale. Et donc moi, je deviens la sœur de Lio. C'est-à-dire que ça devient une définition en soi, un statut, un métier, et quand t'as 10 ans et que tu commences à te construire, c'est vraiment très pénible. Ouais.
Ensuite, tu
deviens... Et encore, c'était pas ma mère, j'imagine, d'être la fille de...
Ouais. Mais tu sais, non, mais je pense souvent à des gens que tu connais aussi bien que moi, qui sont des Thomas Dutronc, qui sont des David Hallyday. C'est un drôle de truc. T'es un peu le prince du pays.
Ouais,
tu sais,
ouais.
T'es un peu... on t'a vu grandir, on t'a suivi tout le temps comme ça. Alors toi, tu t'émancipes très vite. Comment ça se passe? À 15 ans, tu commences à faire le mannequin.
Oui.
Et puis alors après, c'est fini. Et alors, tu vas toucher à tout.
Oui.
Dans quel ordre? Comment ça se passe? Donc tu fais le mannequin vraiment très sérieusement pendant combien de temps? Les 5-10 ans, tu fais que ça?
Non.
T'es maman super vite. Putain, t'as tout fait très vite, toi.
Oui, j'espère pas mourir trop vite non plus.
Non.
c'est à cause de ça, je crois que c'est une peur de...
C'est vrai?
C'est une boulimie. Oui, c'est...
T'as été maman à 21 ans, hein?
J'ai été maman à 21 ans.
D'un bel homme aujourd'hui qui doit avoir quoi?
Oui, 26. Il va avoir 26 ans.
Ouais.
Je me vieillis toujours parce que comme ça me permet d'être calme quand les choses arrivent. Mais il n'a que 25 ans pour l'instant. Donc oui, j'ai fait le mannequin. Non, je l'ai fait sérieusement que 2-3 ans parce que très vite, je m'en lasse et je commence à chanter à 18 ans. Donc mannequin, je m'en sers tout du long. Effectivement, pendant une dizaine d'années, je m'en suis servi.
C'est pour gagner un peu de sous, ouais. Quand on a besoin.
C'était facile, ouais. C'était assez facile. Donc j'ai pas fait une carrière non plus. Je me suis pas mis... J'ai côtoyé les filles de l'époque. C'est-à-dire, je connais les Adriana Carambeu, Estelle, oui, Cindy Crawford. C'est ma génération.
Ah oui, c'est ta génération. Je pensais que t'étais arrivé un poil après.
Un petit peu, mais bon, à 2 ans près.
C'est l'époque où c'est des superstars,
ouais.
Les mannequins.
Ouais.
Et toi, t'as pas voulu aller là-dedans?
Bon,
ça t'emmerde?
J'étais pas... Oui, je voulais faire de la musique. Moi, dès que je gagnais tant par mois pour payer mon loyer, je disais hop, stop, je vais faire des maquettes. J'y vais pas, non, je voyage pas. Puis j'avais mon fils, je voulais pas trop voyager, je voulais être avec lui. Et puis ça me fascinait, je voulais l'élever. Puis j'avais lu beaucoup de choses sur la psychologie, donc c'était vraiment mon terrain de jeu, Tanel. J'expérimentais énormément de choses avec lui.
Tu l'as élevé toute seule?
Beaucoup, ouais, beaucoup toute seule. Et j'avais vraiment envie de l'étudier. Et je l'ai. Mais ouais, je l'étudiais, j'étais. Donc ça me fascinait, ça, la musique me fascinait. Donc écrire, enfin, j'avais trop de choses à faire que pour être que mannequin. Donc je l'ai fait très, très, très sérieusement de 15 à 18, 19 ans. Et après, j'ai commencé à chanter, j'ai fait mon premier disque, j'ai été choriste avec ma sœur, j'ai voyagé avec elle, j'ai fait mon fils, j'ai voulu écrire des chansons. Et mannequin, oui, ça m'a permis de travailler. Mais pareil, RTL, je suis venue travailler ici un été parce que je voulais gagner ma vie. Et M6.
Animatrice sur M6. Non, mais sérieux, c'est cool.
Mais c'est pour gagner sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, RTL, c'était un été, je me suis dit...
Tu faisais quoi d'ailleurs?
J'ai remplacé Francis Zégut de 9h à minuit tous les jours, l'été, et André Torrent de midi à 16h le dimanche. Donc c'était tout un été fou ici. Je me suis éclatée, mais j'ai adoré. C'était des vacances studieuses, j'étais avec mon fils justement, et je voulais me sédentariser. À cette époque-là, il allait rentrer au CP. Moi, j'avais 26 ans. Lui, en septembre, il allait aller à l'école. Et là, je ne pouvais plus voyager avec lui partout parce que je le mettais très peu à l'école. C'est moi qui l'ai élevé à peu près jusqu'à 6 ans. Et donc, il fallait que je me sédentarise. Et donc, j'ai dit un soir à une copine, bon, là, il faut que je travaille, il faut que je trouve un boulot sédentaire. Je vais aller travailler à la télé. Et elle m'a dit, bien sûr, madame veut travailler à la télé. Elle va travailler à la télé.
Je dis,
écoute, oui. Et voilà, et oui.
Et comment t'as fait? T'as été voir M6?
Non, en fait, mais la vie, elle est quand même des fois démente avec moi, ou avec tout le monde. C'est des trucs de fou. J'ai travaillé ici, Donc j'ai appelé ici, il y avait Monique Lemarcy qui s'occupait
des variétés.
Donc je l'ai appelé, j'ai passé un essai, j'ai fait un casting avec Bernard Meneguzzi. J'ai fait mon casting avec lui, j'avais une angine horrible, je pensais, parce que j'ai somatisé. Et puis j'ai eu le boulot, donc j'ai travaillé ici l'été. Et M6 était dans le même immeuble, et j'avais une copine qui est venue me voir un dimanche avec son chien. Et elle prenait à la cafétéria qui était en commun avec M6, elle prenait un café. Et il y avait Marie-Noëlle Borne, qui était productrice à l'époque des Petits Matins sur M6. Et elle commence à parler du chien ensemble. Et elle sympathise. Et Marino lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana. Oh, moi je galère, lui dit Marino. Je suis en train de faire un casting, je cherche des filles pour présenter les clips sur M6 le matin, et je galère, je trouve pas, j'en suis à la 250e et j'arrive pas. Et ma copine lui dit, il y a Elena en bas, elle est en train d'animer une émission, pourquoi tu vas pas la voir, peut-être qu'elle pourrait passer le casting.
Mais non.
Je te jure. Et elle est rentrée dans le studio Marie-Noëlle Borne avec ma copine, et elle a écouté, et puis elle m'a dit, passez demain faire des essais. Donc à 11h, le lendemain, un lundi, je suis allée faire des essais à M6 à côté. Et puis j'ai eu le job. Et en septembre, j'ai commencé à M6. Et moi, j'ai mis mon fils à l'école. Et puis il n'a plus jamais raté l'école puisque je suis devenue sédentaire. Et que sérieusement...
Ça a duré combien de temps, M6?
Ça a quand même duré de mes 26 à mes 32, 6 ans. Parce qu'en fait, je suis rentrée au clip et après, ils m'aimaient bien.
Ils voyaient plus vite que la musique.
Voilà, ils m'ont trouvé rigolote, donc ils m'ont gardée. Et ils m'ont proposé des trucs et j'ai proposé des choses et je suis restée 6 ans. J'ai fait une journée avec, j'ai fait plus vite que la musique. J'ai présenté avec Olivier Carreras, Mr. Biz. Et puis après, je suis partie au bout d'un moment, au bout de 6 ans de loyer au service. Je me suis amusée comme une folle.
Et le ciné, c'est arrivé comment dans ta vie, Elena ?
Et le cinéma, en fait, je voulais être comédienne au tout début de ma vie. C'était ce que je voulais faire vraiment.
Groucho Marx, donc.
Je voulais faire Groucho Marx, je voulais être comique.
Oui, mais remarque, il y a cette phrase, l'arnaqueur. Enfin bon, je ne vais pas
dire...
Non, mais si,
on n'a pas le droit, si on a le droit.
Si, tu as des fourmis dans la chatte.
J'ai des fourmis dans la chatte.
J'ai paniqué depuis 15 jours, j'ai des fourmis dans la chatte. Avec ta tête d'ange. Bref, donc tu voulais faire ça.
Au départ, je voulais être comédienne. Petite, je voulais être comédienne. Et puis, je faisais plein d'essais, ça ne marchait pas. Donc je crois que j'étais pas très bonne. Donc j'ai pris d'autres travers, c'est-à-dire j'ai pris la guitare parce que j'ai pu faire des chansons. Ah. J'avais pas besoin d'un public, ni je pouvais jouer dans ma chambre. Donc j'ai commencé à faire des chansons. Puis j'ai fait de la télé. Et puis en faisant de la télé, forcément on est visible et donc des propositions ont commencé à venir. Mmh. Et j'ai traîné beaucoup parce que j'avais une idée de moi à cause de mes parents. Je pensais faire des trucs. Je voulais être Anna Karina, je voulais tourner avec Romer, avec Rivette. Et en fait, avec cette image à la télé, où j'étais une jolie petite pépette marrante, certes, mais, ouais. Mais venaient que des comédies. Et donc, jusque tard, j'ai résisté. Et puis, je me suis dit, t'es bien bête, on te fait des propositions, prends-le comme des cadeaux, au lieu de trouver que mon Dieu, ça n'ira pas, ça n'est pas assez bien pour moi. Et donc voilà, j'ai commencé assez tardivement au cinéma, trentaine passée, quoi, finalement.
Et le théâtre, du coup, c'est pour contrebalancer ça et te faire un peu mal ?
Non, le théâtre, c'est pareil, c'était... En fait, je suis une coriace, c'est-à-dire que je remonte les manches et je travaille. Donc, comme il fallait gagner sa vie, que la musique gagnait pas vraiment sa vie, il fallait travailler. Donc, j'ai écrit ma première pièce de théâtre. C'est-à-dire que, encore une fois, bien sûr, les fées sont... Je vais en énerver beaucoup, mais les fées sont gentilles avec moi. J'ai rencontré Farrugia en jouant au Burger Quiz. Bon, c'est pas très...
Voilà. Mais non, mais attends.
Donc, et Farrugia, parce que j'avais un peu une grande gueule et que j'étais marrante et puis que je le secouais, il m'a invité à déjeuner, il m'a dit, mais mademoiselle, je veux faire quelque chose avec vous, il faut, je veux professionnellement, hein, n'est-ce pas? Il croyait en moi.
Et le donc, reste ne nous regarde pas, Elena.
Non, mais c'est parce que ça peut être mal compris. Et donc, je suis rentrée déjeuner avec ma meilleure copine et je lui dis, Farrugia, il veut produire quelque chose avec moi, mais je ne sais pas quoi. Et elle m'a dit, pourquoi on n'écrirait pas une pièce à deux ? Et voilà, et on s'est mis à écrire une pièce à deux. On est arrivé, on lui a pitché, on lui a dit, voilà, on a une idée, c'est Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant et Peau d'âne. Elles se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et après, ce qu'elles sont devenues. Il a dit ouais, génial, j'achète.
C'est hyper drôle en plus.
Et voilà. Et on a écrit ça. On a écrit pendant 8 mois. Il nous a produit. On a joué au théâtre avec Valérie Bonneton, Anne de Pétrini, Florence Thomassin et moi-même. Et ça a cartonné. Et donc, pareil, ça a ouvert une autre perception. C'est-à-dire, les gens m'ont vu dans un rôle comique, m'ont vu jouer, mais j'avais déjà 36 ans. Mais voilà, j'ai pris un peu les trucs en main. Alors évidemment, Dominique propose quelque chose, mais encore fallait-il écrire quelque chose, le faire, y aller. C'est pas non plus.
Oui. C'est pas tombé tout cru. Allez, une chanson, Hélène.
Allez, encore une chanson.
Ouais, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter Jean-Louis Aubert. Demain sera parfait.
Ah, c'est Hélène Noguera qui choisit la musique. On est dans la dernière ligne droite là.
Je veux chanter. Je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter. Je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter.
Parfait, Jean-Louis Aubert sur RTL, choisi par Hélène Noguera. Pourquoi on écoute Jean-Louis Aubert, Hélène ?
Parce que ce titre est très joyeux et puis qu'il a cette voix d'ado.
Ah, ça c'est dingue, hein. Ouais.
Qui est plaisante.
Enfin, je peux m'autoriser un truc, mais toi aussi t'as une tête d'ado.
Ouais, enfin un vieux bébé quoi. Ah, ouais. Un vieil ado, mais oui, un truc, je comprends, une énergie. Ouais, je sais pas, mais lui il a ça, il a un truc. Très adolescent,
ouais.
Ouais, et très doux, je le trouve vraiment doux. C'est, et puis c'est toute notre vie, quoi. Il nous accompagne, c'est chouette ça.
On est avec Hélène, Ciao Amor, et c'est son roman qui est sorti chez Flammarion. C'est la dernière ligne droite de l'émission, on commence à rentrer dans la nuit. C'est quoi ton rapport à la nuit ? Alors d'abord, pour revenir au roman, ton héroïne, elle est quand même bien déjantée, elle gobe des parachutes, elle va au Montana, elle boit trop, elle rentre bourrée. Pendant tout le trip où elle part avec le type qu'elle essaye de séduire, elle prend des trucs, des excitants, des voilà. C'est quoi la nuit pour toi, Hélène Noguera ? C'est la fête ? Ou autre chose d'ailleurs ?
Je suis pas du tout comme elle, hein. Je suis pas comme Cléophée. Moi, j'ai jamais trop pratiqué ce genre de choses. J'aime bien picoler, facile. La nuit maintenant, elle est. J'adore mon lit en fait. Donc j'adore me mettre au lit. Ça ne veut pas dire que j'y dors forcément. Je peux regarder des choses à la télé très longtemps. Mon lit est.
T'écris dans ton lit. J'ai reçu un écrivain une fois qui m'a dit qu'elle écrivait tout dans son lit.
Ouais.
Je sais pas qui c'était.
Mais Colette a fait ça longtemps.
Ah ouais.
Ouais. Colette, elle écrivait dans son lit. Ah,
enfin,
je crois
pas
que Houellebecq.
À l'époque, hein.
Non, elle avait une. Ça s'appelle un. Il y a un mot pour ça, j'en cherche d'ailleurs, mais c'est dans les brocantes. C'est une espèce de plateau comme les plateaux.
Pour manger.
Pour le petit-déj. Ouais. Que tu peux mettre sur toi, mais qui est plat comme un bureau de dessinateur. Ah, et tu peux écrire à la plume dessus.
Attends, mais t'écris à la main, Elena ? Non.
Non, pas moi. Colette. On parlait de Colette.
Oui, non, mais
moi, j'ai le plateau, je mets mon ordi dessus. Ouais. Mais non, moi, j'écris au lit le matin. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je prends mon ordi, mon café, j'écris jusqu'à midi, une heure couchée. Après, je me lève, je fais mon déjeuner, je fais un peu de sport, mais de la gym à la maison, hein, comme les mamies. Et après, j'écris habillée et normale, assise, quoi.
Et pour en venir à la nuit.
La nuit.
Pour en venir à la nuit, non, mais est-ce que t'as, tu sais, le monstre sous le lit, tu as vu, il y a ça de Stephen King qui va sortir en série télé là, à la rentrée. Donc, est-ce que t'as le clown qui fait peur dans le placard? Est-ce que t'as.
Non, j'ai plus peur. J'ai eu très peur tout très longtemps, très longtemps. Mais j'ai plus peur. Je me couche tranquille. Par contre, j'ai besoin de mettre la télé ou la radio. J'ai besoin de gens qui parlent, qui m'intéressent un petit peu, mais pas trop. Pour que je puisse fermer les yeux, suivre ce qu'ils sont en train de dire et finir par m'endormir quand même, les lâcher. Alors que si je les adore, je les regarde et je dors pas. Et que si ça m'intéresse pas, ça m'angoisse. Donc c'est drôle d'équilibre à trouver. Donc je peux regarder... Ou alors, il y a... Ça j'adore, mais je les regarde vraiment, mais très longtemps. C'est L'amour est dans le pré. Alors L'amour est dans le pré me permet de m'endormir, mais quand même je veux les voir parce que je les aime. Alors, un épisode peut me faire 4 nuits, puisque je m'endors, donc je reprends là où je me suis. Voilà, je fais tout le replay et je les suis depuis une dizaine d'années.
C'est une
parfait.
Cliente de la télé, Elena.
Je suis cliente de la télé en tant qu'endormissement. Mais avec... je respecte quand même, c'est pas... Ouais. Tu vois, j'ai pas d'ironie quand je dis que j'aime L'amour est dans le pré. C'est pas ironique, je l'aime sincèrement, j'aime les voir, j'aime voir ces gens qui espèrent en l'amour, voir, il y a des couples tellement mignons parfois, on les aime, j'y pense à eux parfois, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont encore heureux.
Je t'ai dit, j'en reviens à cette phrase dans ton livre, il n'y a chez toi aucun, j'allais dire deuxième degré, c'est pas du tout ça, aucun cynisme.
Oui.
Aucun cynisme,
non,
jamais.
Pas, ouais.
Ouais. Une série de combien pour se séparer, combien d'heures de sommeil, Elena ?
Combien d'heures de sommeil il faut à moi ?
Ouais.
10.
C'est vrai.
Le mien, t'as fait des grands yeux comme ça.
T'as de la chance.
Non, mais... 10, c'est bien.
Ouais.
8, c'est jouable. Et 11. À moins, je sais que je suis en carence, que c'est compliqué.
Combien de clopes par jour ?
Entre 0 et un paquet.
Ouais. Combien de verres d'alcool par semaine ?
Oh, entre 0 et 1, ça n'existe pas. Mais je dirais entre 3 et 20.
Dernière cuite ?
Il n'y a pas longtemps. Attends, là on est au théâtre, donc c'était juste avant. Parce que quand tu joues au théâtre, tu ne peux pas. Donc le dimanche avant la reprise du théâtre.
Ouais. Mmh. Psychotrope, pas psychotrope ? Non, t'as dit non. Hein.
Non, ça j'ai jamais pris. Ouais. J'ai fumé des trucs.
Je sais que tu as des tatouages, 5, il faut juste que tu m'expliques.
Oui.
inexorable.
Inexorable, c'est mon mot préféré de la langue française.
Grâce à Bernard Pivot, c'est génial.
En fait, Bernard Pivot, on était un peu obligés de regarder apostrophe quand on était petit. Puisque...
Mais il était génial, son questionnaire final. Hein.
Ouais. Je l'adorais. J'adorais la question, qu'est-ce que vous diriez à Dieu
si vous le rencontrez,
quand vous arriverez là-haut.
Ouais.
Mais j'adorais.
Tiens, je vais la garder pour toi, alors on va finir avec ça tout à l'heure. Parle-moi de ton tatouage.
Et donc, il demandait aux gens, il demandait aux écrivains qu'est-ce que c'est le mot préféré de la langue française pour vous. Enfin, je refais la phrase dans le bon ordre. Quel est pour vous votre mot préféré de la langue française. Et les gens répondaient un truc. Puis moi, gamine, je réfléchissais. Et en fait, c'était toujours inexorable. J'aimais bien inexorable. J'aime bien le gz, le bleu, le bleu. Et puis, j'aime bien ce que ça veut dire.
C'est flippant comme mot quand même, parce que tu peux plus retenir.
Alors, inexorable, après, donc, j'ai rencontré un philosophe dans ma vie qui a cherché la signification, puisque je me le suis écrit sur le dos. Et que,
c'est dans le dos ?
C'est dans mon dos, ouais, sur l'épaule. Et donc, inexorable, effectivement, moi, je pensais que c'était inexorable, qu'on ne peut pas éviter. Donc, évidemment, la mort, la fin des choses,
bah oui,
la finitude.
C'est ce que je pense aussi.
Et lui, il a rajouté qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui est inoxydable un peu, comme du métal, quelque chose de très, très fort, qu'on ne peut pas abattre. Et puis, il me disait, bah, en fait, ça te ressemble, au fond. Tu es comme ça. Et je disais, tiens, alors, oui.
Il a raison.
Pas. Ouais.
Alors merci,
oui.
Copyright Pivot.
Oui.
Dieu, tu le rencontres ?
Mais je sais pas, alors ça, j'ai pas assez réfléchi. Maintenant, tu me prends de court.
Mais non, mais c'est ça qui m'a donné l'idée de cette question.
Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, oh non, je voudrais un deuxième tour de manège.
Le livre est formidable. J'ai adoré ton livre. Merci d'être venu nous en parler. Ça s'appelle Ciao Amore. Ça sort chez Flammarion. C'est une histoire d'amour et vous allez vous faire balader comme je me suis fait balader jusqu'au bout. Merci Elena Noguera d'être venue.
Merci Eric.
À bientôt.